60 minutes business, BFM Business avec vous.
BFM Business avec vous, deuxième partie de l'émission avec Lorraine Goumeau, comme tous les jours. Et nous parlons aujourd'hui, Lorraine, de la rémunération des cadres.
Et oui, on va s'intéresser à eux, pourquoi pas. On va faire ça avec un petit nouveau, il s'agit de Jean de Calviac. Bonjour Jean.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat associé chez Avanti, avec nous pour discuter aussi de comment pallier la baisse de pouvoir d'achat qui concerne les cadres, peut-être dans votre entreprise également. On va démarrer avec cette question. Jean, quelle est, d'un point de vue employeur, la différence ou les différences entre des profils cadres et des salariés non cadres ?
Alors, c'est une excellente question. Longtemps, ça a été très simple. Puisque le cadre, qu'est-ce qu'il avait le cadre ? Il avait la retraite des cadres. Mmh. Ça datait de 1947. On était après la Seconde Guerre mondiale. Mmh. On avait voulu reconstruire un système de retraite et on a créé une retraite spécifique pour les cadres. C'était ce qu'on appelait l'AGIRC. Ça a été créé en 1947 et c'est mort en 2017. Longtemps, la retraite des cadres, c'était le marqueur du statut cadre. Mmh. J'étais cadre puisque j'étais à la retraite des cadres. Sauf que là, ce marqueur principal est mort et disparu puisqu'il n'y a plus de retraite des cadres. Il y a un système de retraite qui s'applique à tous les salariés. Et donc, la grande question pour les entreprises, c'est finalement, qu'est-ce qu'un cadre et à quoi sert encore la différence cadre-non-cadre ?
Bah dites-nous, à quoi elle sert cette différence encore ?
Alors justement, on va vers des différences plus mi-programmées. On va sur d'autres points, on va distinguer des personnes qui ont des fonctions d'encadrement et des salariés qui ont des profils experts. Et sur à ces profils différents vont répondre bah justement des problématiques salariales différentes.
Alors, deuxième question pour faire un peu le portrait de ces cadres et de comment ils s'en sortent dans leur rémunération. Est-ce que vous diriez que les salariés cadres négocient plus que les autres ? Est-ce que c'est quelque chose que vous observez, vous ?
Oui. Alors, clairement, la réponse est oui. À titre individuel, un salarié cadre négocie plus qu'un salarié non cadre. Après, de l'autre côté, ce que les cadres vous répondrez en entreprise. Moi, j'ai le cas chez une de mes clientes. Ils disent, mais écoutez, nous, il y a eu des négociations qui ont été faites avec les organisations syndicales et nous, on était un peu oubliés dans les négociations. Et on avait des problématiques spécifiques, particulières. Nous sommes moins nombreux que les non-cadres et donc nous avons un besoin de négociation individuelle.
Les cadres souffrent aussi de la baisse du pouvoir d'achat. Quel est le meilleur dispositif pour enrayer cette baisse de pouvoir d'achat des cadres ?
Alors, c'est une question qui intéresse beaucoup les entreprises, puisqu'en effet, les problématiques des cadres en matière de rémunération, notamment des cadres avec les rémunérations les plus élevées, ne sont pas les mêmes que les problématiques rencontrées par les non-cadres. Pour un grand nombre de salariés, et c'est le cas chez beaucoup de nos clientes actuellement, l'idée, c'est d'avoir du cash immédiatement, puisqu'on a une problématique de boucler les fins de mois. Mmh. Ce qu'on constate en revanche chez les non-cadres, et on a mené un certain nombre d'études, la grande peur actuellement du non-cadre, c'est la disparition de son patrimoine. C'est d'avoir un patrimoine qui se dégrade, et c'est plutôt comment est-ce que je fais pour mes enfants, comment est-ce que je fais pour les études de mes enfants, comment est-ce que je fais pour ma résidence principale. Et là-dessus, alors, il y a un très beau mécanisme, qui est un mécanisme qui est très ancien, tout le monde en parle, peu de personnes le pratiquent, ça a plus de 80 ans, le général de Gaulle l'avait évoqué en 1943, c'était de rendre les salariés actionnaires de leur entreprise. 1943, ça a été fait en 1967, et là c'est très amusant, puisque les grands mécanismes dont on parle là beaucoup de réformes de la participation et de l'intéressement. Ces mécanismes-là ont été un peu dévoyés. Quelle était l'idée du général de Gaulle lorsqu'il a créé ces mécanismes ? C'était pas de donner une prime de pouvoir d'achat, c'était de vous permettre d'avoir des actions, soit de votre entreprise, soit des entreprises d'un panel français. Et le choix, le pari qui avait été fait à l'époque par le général de Gaulle est payant. Puisque imaginez le salarié qui a fait sa carrière entre 67 et 1990 et qui percevait ses primes en action, quand vous avez un rendement moyen à 7 ou 8%, et bien le pari a été gagnant. Sauf qu'on a eu ces problématiques d'achat récentes et les mécanismes Sarkozy ou Macron où on a voulu justement débloquer et détourner l'intéressement et la participation de leur mécanisme originel pour se tourner vers du cash et du court terme. Or, le désir des cadres, et ils sont pas idiots, ils voient comment est-ce qu'on fait fortune en France. En France, actuellement, le patronat, dans le private equity, les personnes s'enrichissent avec le capital. Mmh. Et donc, l'une des demandes des cadres, notamment des cadres avec la plus haute rémunération, c'est d'avoir justement des actions.
Donc il y a une dichotomie entre ceux qui veulent du cash, qui veulent liquider ces mécanismes de participation d'intéressement pour avoir immédiatement plus de pouvoir d'achat, et les autres qui sont financièrement un peu plus smart et qui continuent à miser sur le capital. C'est ce que vous observez, si je résume bien ?
On l'observe bien. Et c'est là, en fait, où il y a une grande responsabilité des organisations syndicales. Puisque lorsque vous dites à un salarié qui a des problèmes de fin de mois, que non, en fait, c'est mieux, dans 10 ou 15 ans, vous verrez, la bourse va augmenter, il sera beaucoup plus riche, il va tout de suite vous répondre, non, mais écoutez, moi, j'ai une problématique de fin de mois.
Oui.
Mais alors que les organisations syndicales peuvent avoir une meilleure connaissance et elles peuvent, justement, se plonger dans le domaine. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis. Aux États-Unis, ce sont des plans qu'on appelle les plans ISOP. Ces plans ISOP sont des plans qui permettent aux salariés d'être propriétaires de leur entreprise. Il y a eu un succès phénoménal puisque 10% des entreprises américaines sont concernées par ces plans.
Oui.
Et la grande surprise sur ces plans, c'est même pas leur réussite économique, c'est plutôt que ça fait consensus aux États-Unis. C'est pas un sujet de cristallisation entre le patronat et les syndicats, c'est un sujet qui est consensuel. C'est-à-dire que les républicains sont pour l'actionnariat salarié, puisque schématiquement, ils veulent rendre tous les salariés capitalistes, et les démocrates sont également pour l'actionnariat salarié, puisque ça permet de redistribuer les richesses. Et en ces périodes-là, en ces périodes justement de majorité un peu plus incertaine, ça peut être en fait un beau projet transpartisan de relancer cet actionnariat salarié.
Bon, c'est intéressant ce parallèle avec les États-Unis. Il faudra qu'on vous invite sur une autre émission, mais pour conclure cette séquence, on aimerait vous adresser quelques questions d'auditeurs, Jean, notamment celui-ci qui va sans doute faire écho à ceux qui nous écoutent. On a anonymisé notre auditeur qui travaille, je vous la fais courte, dans un grand groupe bancaire dépendant d'un autre grand groupe. Il nous écrit: on fait rentrer une recrue de l'extérieur dans mon entreprise qui a la même expérience et la même formation que moi, même école, même nombre d'années d'expérience. En cette période de pénurie, il semble avoir bien négocié, puisque notre auditeur apprend que son futur confrère va toucher 40% de plus que lui. Il nous demande comment s'appuyer sur cette information pour lui-même aller renégocier son salaire.
Alors c'est sûr que dit comme ça, une différence de 40%, ça semble beaucoup. Surtout qu'il y a un principe juridique qui est posé, c'est qu'il est à travail égal, salaire égal. De là, je vous donnerai en fait 2-3 retours d'expérience, c'est qu'il faut beaucoup se méfier de Radio Moquette. En réalité, qui connaît le salaire de son voisin ? Moi, j'ai eu l'exemple où on avait une très forte différence de rémunération. Les personnes montent au créneau, les syndicats nous disent que c'est inadmissible, 30% de différence de rémunération. Sauf qu'on avait confondu une rémunération brute et une rémunération nette sans les primes. Donc, attention, bien évidemment, il peut en parler à son employeur. Attention à bien vérifier ses sources.
Oui, parce que 30%, c'est vrai que ça fait... C'est les charges, en gros. Bon, allez, un autre cas pratique pour vous. Pareil, c'est intéressant parce qu'on va parler de management. Un auditeur qui est dans le conseil nous écrit: je manageais 20 personnes avant la crise sanitaire. Mon équipe s'est réduite comme une peau de chagrin à 5 personnes. Mon employeur peut-il décider unilatéralement de réduire mon salaire ?
Alors, si on parle de salaire, la réponse est non, on n'a pas le droit de réduire unilatéralement le salaire. En revanche, il y a parfois des avantages qui sont institués à côté, des plans de rémunération variable, annuels ou long terme, qui sont mis en place en vigueur avec d'autres sources, c'est-à-dire des engagements unilatéraux, des usages, des conventions collectives. Et ceux-là, bien évidemment, peuvent être modifiés, mais en aucun cas le salaire de base.
Donc salaire, vous pouvez être rassuré. Par contre, les variables, les primes, les autres dispositifs...
Ça dépend de la façon dont ça a été institué.
Bon, on ne peut pas répondre à toutes vos questions, mais ces sujets de rémunération, de salaire, vous nous écrivez beaucoup dessus. On réinvitera Jean pour en parler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean de Calbiac. Vous êtes avocat associé chez Avanti. Et puis, bien sûr, vous avez des questions, vous nous écrivez, vous voyez, on y répond. On fait travailler tout un panel d'experts. Merci Jean de Calbiac d'être venu. Vous restez avec nous dans